Il est 18h32, vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission débat de Radio Courtoisie. Après la politique, on va parler culture, puisque nous recevons Guillaume Narguet. Guillaume Narguet, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous fais une présentation pour les auditeurs. Vous êtes né en 87. Vous êtes titulaire d'un master en affaires publiques à Sciences Po.
Oui.
Pas rêver, ça. Vous êtes critique littéraire et cinéma, ça c'est mieux. Contributeur de 2016 à 2024 dans trois revues culturelles au moins, Philite, Zone Critique et Livre Arbitre. En 2024, vous fondez votre revue à rebours, donne-moi la hop, la revue, mais c'est d'abord exclusivement en ligne.
Oui.
Et là, vous la sortez en papier.
Tout à fait.
La voici. Donc à rebours, vous voyez, chers auditeurs, une très belle revue. Hop, je descends un peu. Voilà. Donc c'est un semestriel ?
Tout à fait, oui, on aura deux par an. Donc le premier numéro, qui est celui que vous avez entre les mains, est sorti le mois dernier en février, et a pour thème la transmission. Et le deuxième numéro, je ne dis pas le second parce que je suis optimiste, donc le deuxième numéro sortira en septembre ou octobre, tout dépendra du temps qu'on mettra à le confectionner, et il aura pour thème la folie.
Ça c'est un beau thème.
Voilà.
Et vous êtes également le cofondateur des éditions Longtemps en 2025. Vous avez réédité la correspondance de Christian Guillet. Vous préparez un livre d'entretien avec Jean-Jacques Schul.
Tout à fait.
Prix Goncourt 2000. Et enfin, vous êtes membre du jury presse du festival de cinéma format court.
Voilà.
Qui va avoir lieu en avril.
Dans quelques jours, tout à fait.
Parce que nous sommes en avril. Non, nous sommes en mars. Bref, vous l'avez compris, chers auditeurs, si vous aimez les revues qui essayent encore de penser, transmettre, dialoguer par littérature, histoire, poésie, tout ça, vous êtes au bon endroit. Mais avant d'entrer dans le détail, on a une tradition, celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous.
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Guillaume Narguet, quel est le pire bouquin de l'univers ?
Allez, je dirais le petit livre rouge de Mao.
Oh, c'est facile ça.
Il en faut bien.
Bon, d'accord. Quel est le film qui aurait dû rester une bande-annonce ?
Mégalopolis de Coppola. La bande-annonce est très bonne et le film est une sorte de salmigondi foutraque de pensées mal dégrossies. On s'y perd et c'est dommage parce que terminer une carrière comme ça, malheureusement, c'est très mal.
C'est
dommage.
Triste. Voilà. Quel est le plus grand navet intergalactique ?
Alors je dirais ce fameux film dans lequel apparaît Christophe Barbier qui s'intitule Doute, qui avait été réalisé à l'époque par son épouse dont j'ai oublié le nom, et qui n'existe, enfin qui est introuvable. On ne le trouve que sur YouTube, et justement on parlait de bande-annonce, on ne trouve que la bande-annonce, et rien que ça, donc une minute et demie de pur bonheur, parce que ce sont des échanges de pensées, de réflexions philosophico-politiques, mais qui n'ont ni queue ni tête, et du Christophe Barbier pur jus, avec Benjamin Biolay également. Donc vous imaginez un peu les têtes d'affiche.
C'est fascinant de savoir que ça existe.
Voilà. Ça existe, mais j'aimerais bien le trouver. Je l'avais vu au cinéma. Là. Il est sorti en 2006, je crois. Ouais. Mais
je pense que Christophe Barbier doit l'avoir. Le Comte de Monte Cristo ou Les Trois Mousquetaires ?
Ah, les deux, mais Le Comte de Monte Cristo peut-être parce que j'aime beaucoup les histoires de vengeance.
Votre scène de film ou de cinéma préférée ?
Je dirais l'apparition de Claudia Cardinal dans Il était une fois dans l'Ouest. Très belle, très belle, très belle. Voilà, tout à fait. Et puis, elle sort du train, elle est pleine d'espoir. Ça se lit sur son visage qui est lumineux, qui est radieux. Évidemment, à ce moment-là, elle ne sait pas encore que sa famille a été massacrée. Et le temps passe et on voit sur son visage la réflexion de se faire. Elle commence à être inquiète. Et il y a ce très beau plan séquence d'une minute avec un travelling latéral où on filme donc le hall de la gare et la caméra s'élève petit à petit comme ça par-dessus la gare et on voit, alors effectivement il y a la musique d'Ennio Morricone bien sûr qui fait beaucoup, et on voit la ville, la fameuse ville du Far West en train de se construire, et c'est tout le mythe américain du Far West qui est exposé sous nos yeux.
Quel est le livre que vous n'arrivez jamais à finir ?
Je vais être un peu sévère, alors je triche un peu parce que je l'ai malgré tout fini, mais j'ai eu beaucoup beaucoup de mal, c'était L'éducation sentimentale de Flaubert, parce que Frédéric Moreau, je le trouve vraiment très très niais, et j'avais envie de le frapper à chaque page, et voilà, j'avais vraiment beaucoup beaucoup de mal.
Ah,
mais
merci.
Sinon, si voilà, pour rester plus honnête, n'importe quel livre de Christine Angot, parce que ça me tombe des...
On a dit un livre.
Voilà.
Pourtant Dieu sait que c'est pas gros.
Enfin, oui, mais en plus, mais en plus.
Quel est le film unanimement célébré et que vous trouvez donc le plus surestimé ?
La mélodie du bonheur, ça aussi, qu'est-ce que c'est niais. Tout le monde... vous parliez de Sciences Po tout à l'heure. Alors, à l'époque, Sciences Po avait encore bonne réputation. C'est vrai que maintenant, ça... Bon, je ne vais pas en parler, mais à l'époque, voilà, j'avais suivi un cours sur les comédies musicales. On m'avait forcé à étudier ce film et en faire un exposé. Et je l'avais critiqué de A à Z. Et j'ai eu une note assez catastrophique parce que tout le monde, évidemment, était en admiration devant ce film. Et moi, je le trouve tellement niais. Aussi que voilà, je...
C'est un film d'enfant.
Mais c'est... Oui,
faut regarder mais... ça enfant. Quelle est la pire adaptation littéraire au cinéma?
Le film 3 avec Brad Pitt, qui trahit complètement l'Iliade. Et enfin, mais il n'y a rien qui va dans ce film.
À part Hélène de Troie, quand même.
Oui, alors ce ne sera peut-être pas pareil dans la prochaine adaptation qui va sortir d'ici quelques semaines là de Nolan, voilà, tout à fait. Avec un choix plus que contestable, je crois, de l'actrice qui fera Hélène et qui est, je crois, d'origine africaine. Alors elle joue peut-être très bien, mais effectivement, quand on lit l'Iliade, on a un peu du mal à imaginer une personne noire dans le rôle d'Hélène, justement, alors que Homer la décrit avec des cheveux blonds. Hein, bien sûr, c'est la blondeur qui fait beaucoup hein, dans la séduction d'Hélène. Bon, là, c'est un peu plus compliqué.
Et quelle est la meilleure adaptation?
Je dirais le Satyricon de Fellini. Il a su se dégager un petit peu de l'œuvre tout en restant fidèle et on y voit sa patte, sa touche personnelle. C'est un excellent Fellini.
Un roman à lire avant une coloscopie?
L'épopée du buveur d'eau de John Irving, je pense que c'est approprié.
Et comme Chuck Norris est mort, Chuck Norris ou Steven Seagal?
Chuck Norris, parce qu'il y a quand même malgré tout un peu plus de profondeur et d'expression dans le visage que Steven Seagal.
Merci Guillaume Narguet. Alors, maintenant qu'on se connaît un peu plus, on va parler de vous. Parce que c'est toujours intéressant, des gens comme ça qui sont dans la culture, savoir d'où ça vient. Comprendre, puisqu'on dit que la France commence à se déculturer, qu'il n'y a plus rien, on transmet plus, c'est l'objet de votre revue, la transmission. Vous, c'est venu comment?
Alors, tout dépend. Est-ce que c'est venu comment? La revue ou le numéro papier? Parce que si on parle de la revue, ça vient de loin.
Alors, on va revenir votre passion pour la littérature et pour le cinéma. Revenons à l'enfance, carrément.
Là, l'enfance, je pense que oui, effectivement, c'est très freudien. Je pense que la passion de la littérature m'a été transmise, justement. Elle a été transmise par ma grand-mère, qui avait une belle bibliothèque et qui m'a transmis sa passion, d'abord pour l'histoire. J'étais très jeune quand je lisais déjà des biographies de rois de France. J'ai lu, par exemple, le fameux Saint-Louis de Jacques Le Goff. J'avais 15 ans, ça m'a transporté à cette époque-là. J'ai lu tout ce qui se rapportait aux croisades à peu près à la même époque. Donc, c'est venu de l'histoire. Et ensuite, l'histoire... a amené l'amour aussi de la littérature, parce qu'il y a aussi l'histoire de la littérature, et je suis un grand admirateur de toute la culture, notamment du 19e siècle, et je suis arrivé à la littérature par les romans d'aventure de Théophile Gautier, Alexandre Dumas, on en parlait tout à l'heure, et l'amour aussi des livres, de l'objet livre, parce que je suis également bibliophile. Alors c'est peut-être aussi cet amour qui m'a transmis ma grand-mère, et que moi-même je reprends à mon compte, je collecte les livres anciens, et notamment ce qu'on appelle les envois d'auteurs, donc les dédicaces manuscrites d'auteurs, et j'ai une assez belle collection, j'ai même du Proust, du Céline, etc., avec des envois. Et cette accumulation m'a entraîné dans une spirale laquelle je ne peux plus sortir de désormais, parce que non seulement mon appartement est rempli de livres, je ne sais plus où les mettre, j'ai même colonisé la maison de mon père où j'ai mis tous mes livres anciens, et là c'est pareil, il n'y a plus de place. Et voilà, c'est une sorte de cercle vicieux, cet amour de la littérature et du cinéma qui m'est venu, on va dire, à la vingtaine, en regardant les films, surtout de David Lynch et de Werner Herzog, qui ont été mes deux grands coups de cœur cinématographiques. Et on va dire que voilà, l'histoire, la littérature, le cinéma sont mes plus grandes passions, peut-être. Et c'est ce que j'essaye aussi de transmettre dans le cadre de ma revue.
Alors justement, voilà. Vous avez écrit... en plusieurs années dans différentes revues culturelles. Oui. Qu'est-ce qui vous a donc décidé de créer, de lancer la vôtre?
Alors effectivement, j'ai collaboré pendant 10 ans à Philite, Zone Critique, Livre Arbitre également. Je réalisais surtout des entretiens. C'est un exercice que j'apprécie énormément. On est dans une sorte d'échange bien sûr, mais aussi de confrontation, d'idées, de points de vue. J'ai toujours apprécié creuser avec l'auteur ce qu'il a voulu dire ou ne pas dire justement. On est dans une sorte de duel parfois. Ça peut aussi prendre la forme d'un duel. Et ces entretiens m'ont beaucoup apporté au cours de toutes ces années que j'ai passées avec ces revues. Et au bout d'un certain temps, bien sûr, il faut quand même aller voir ailleurs. Et j'ai décidé de prendre mon envol et d'obtenir cette indépendance que je n'avais plus forcément dans ces revues-là. Je voulais faire vraiment ce que je voulais faire. J'avais énormément d'idées d'entretien avec des personnalités que je proposais chaque fois à ces revues, et comme ça ne collait pas forcément à la ligne éditoriale, donc je devais en faire le deuil. Et donc je me suis dit, au bout d'un certain temps, il est temps de me lancer moi-même et de faire ce qui me plaisait. Et donc c'est pour cela que j'ai créé cette revue, d'abord en ligne, avec plusieurs rubriques qui reflètent finalement mes divers centres d'intérêt, mais aussi ceux bien sûr de mes contributeurs, mes rédacteurs. Donc il y a la littérature, du cinéma, l'histoire, l'essai, art et spectacle, bande dessinée. C'est une aventure donc que nous avons lancée avec la maison d'édition Longtemps, donc une association que j'ai fondée avec mes partenaires, donc en 2024, en septembre 2024. Et la suite logique, c'était le papier, mais je pense qu'on en reparlera après.
Évidemment. Si vous souhaitez. Romaric a une question.
Oui, bien, je trouve moi assez admirable cette prolifération de revues, parce qu'on est quand même dans une époque où les gens lisent de moins en moins, où la santé du marché du livre n'est pas spécialement florissante. Et pourtant, en tout cas à Paris, on peut dire qu'il y a toujours une activité. Moi-même, j'ai beaucoup traîné dans ces endroits interlopes et passionnants de rédaction de revues. Et je trouve qu'il y a une bonne santé. Je me demande même s'il n'y a pas plus de revues aujourd'hui qu'en 2005 ou 2006, d'ailleurs, quoi qu'il y avait à l'époque déjà des revues aussi qui ont eu une petite réputation. Bon, ça dure des fois 4-5 numéros, ça ne rapporte pas de sous, ça se vend à peu de monde. Et pourtant, ça crée quelque chose d'une dynamique. Il y aurait d'ailleurs une histoire même des revues contemporaines à faire. On se souvient de la revue Perpendiculaire, à laquelle avait participé Michel Houellebecq, et qui avait donné lieu à la première affaire Houellebecq quelque part au moment de la publication des Particuliers élémentaires. Il y avait la revue de Mehdi Belhaj-Kassem dans les années 2000, qui avait eu certains succès. Mais pareil, ça permettait d'être... Derrière, il y a une sociabilité aussi, il y a des soirées, il y a des rencontres, il y a la revue de l'Atelier du Roman, notre ami Lakis Proglis, qui se porte toujours bien au bout de 30 ans, et qui a changé d'éditeur 1000 fois, et qui réussit encore aussi à réunir des gens, des auteurs, des écrivains, et différentes générations. Bref, qu'en est-il de la santé des revues? Quelles sont celles dans lesquelles vous avez écrit vous-même, celles qui vous ont inspiré peut-être? Et que peut-on dire, quelque part, de ce milieu particulier qui est en meilleure santé que le marché du livre aujourd'hui?
Alors, vous avez déjà apporté des réponses à votre question, parce qu'effectivement, il y a une prolifération de revues. On peut le voir tous les ans au salon de la revue se tient à l'espace des Blancs-Manteaux, où vous entrez, c'est une sorte de mini-salon du livre, où vous avez énormément de revues dont vous n'avez jamais entendu parler, parfois très très spécialisées, sur des auteurs, par exemple, complètement oubliés. Malheureusement, nombre de ces revues disparaissent au fil du temps, et celles que vous voyez... on va dire à l'année 2024, à l'année 2025, vous ne les reverrez pas forcément dans ce cadre-là. Alors, effectivement, l'objectif, c'est de durer. Hein. C'est pour ça aussi qu'on a choisi ce thème de la transmission. Hein, vous connaissez bien cette citation, les paroles s'envolent, les écrits restent. Je crois encore au papier, je crois encore justement au format de la revue. C'est une manière de mettre ensemble des auteurs, alors qu'ils soient romanciers, historiens... ou même des cinéastes, il n'y en a, en l'occurrence il n'y en a pas dans le premier numéro, mais il y en aura dans le deuxième, des auteurs donc, qui n'ont pas forcément grand-chose à voir ensemble, et qui, malgré tout, dans le cadre de cet ensemble-là que constitue la revue, peuvent finalement se trouver des points communs et ont quelque chose à dire sur un thème particulier. Alors, vous avez mentionné l'atelier du roman. Effectivement, c'est peut-être, si je dois choisir un modèle, c'est peut-être celui-ci que j'aurais pris comme ça à brûle pour point.
Alors, peut-être vous préciser pour nos auditeurs l'atelier du roman. Ils ne connaissent pas forcément ce que c'est.
Oui, ça a été fondé par la Kiss Proguidis au début des années 80, je crois, sous l'égide de Milan Kundera. Oui. Et le but de la Kiss Proguidis, qui lui-même est un homme d'origine grecque qui était arrivé à Paris avec tout le fantasme sur la littérature parisienne. C'est ça qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que cet homme passionné de littérature et de romans d'origine grecque allié à Milan Kundera, qui finalement ont été les meilleurs transmetteurs, en parlant de transmission, de la vie littéraire parisienne classique dans les années 80-90. Et ce qu'on connaît de l'atelier du roman, c'est évidemment Houellebecq a été défendu et découvert en partie dans l'atelier du roman. Philippe Muret a beaucoup écrit dans l'atelier du roman. C'est à l'atelier du roman que Pierre Jourde a rencontré Éric Nolot, qui ont commis ensuite leur livre détonnant au début du 21e siècle. Donc ça a été vraiment un laboratoire, un lieu de rencontre énorme. Et donc ça prouve d'ailleurs, on revient sur ce sujet, sur l'utilité des revues, parce qu'il y a peut-être qu'une centaine de personnes comme ça qui travaillent là-dedans, qui donne beaucoup de passion, mais ça a des répercussions finalement à long terme qui sont significatives.
Voilà, et l'objectif c'est aussi donc de laisser une trace. Effectivement, quand j'ai parlé de ce projet de revue, alors il y a déjà 2 ans, parce que c'est quand même un projet que je mûris depuis quelques temps, plusieurs de mes interlocuteurs m'ont dit ah, « bah, vous vous lancez dans une revue papier, bah, bon courage, parce qu'au vu de l'état actuel du marché, et puis surtout de la demande du lectorat, bah, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. » Et bon, c'était malgré tout bienveillant, hein. C'est des gens comme Pascal Quignard m'ont dit ça, Jean-Jacques Schull, etc., que je connais bien. Ce sont, ils étaient vraiment tout à fait sincères dans ce bon courage qu'ils m'ont adressé, mais malgré tout, il faut être quand même lucide, effectivement. On a une demande qui s'amenuise parce qu'il y a un défaut de transmission, justement. Ça, alors on peut remonter plus loin. On sait bien qu'avec la transformation de la cellule familiale au cours du XXe siècle, tout ce qui constituait par exemple les récits, les contes et récits, les mythes que les anciennes générations pouvaient transmettre aux nouvelles, finalement a petit à petit disparu. On transmet plusieurs choses, on transmet des valeurs, on transmet un héritage, on transmet une culture, on transmet une idéologie, même on transmet une foi. Mais avec cette coupure entre les générations, puisque maintenant nous mettons nos anciens dans des EHPAD, hein, et ils n'habitent plus au sein du foyer comme ce pouvait être le cas jusque dans les campagnes, jusque la première moitié du XXe siècle, avec cette coupure entre les générations, nous nous sommes nous-mêmes coupés de nos racines, on va dire, culturelles. Et les jeunes générations n'ont pas forcément, elles ne sont pas toutes autodidactes, elles n'ont pas forcément tous les repères pour pouvoir se construire elles-mêmes leur propre culture. Et c'est à partir de ce constat que je me suis dit qu'il était évident de consacrer ce premier numéro à la transmission dans un cadre, dans un contexte qui n'est pas, encore une fois, propice à cela. Et on le voit avec la prolifération, on va dire, c'est très à la mode en ce moment, des vidéos en format court sur les réseaux sociaux, du style TikTok, Instagram, etc., où vous voyez des gens de très jeunes, généralement, qu'on appelle des influenceurs, entre guillemets, qui s'auto-proclament critiques littéraires ou critiques cinéma et qui, en l'espace d'une minute, une minute trente, pourraient vous donner leur avis sur la recherche du temps perdu. Enfin, je veux dire, bon, c'est complètement... enfin, pour moi, c'est assez démentiel. Et on est dans cette logique, dans cette culture de l'instantané, tout de suite, tout doit venir à nous tout de suite. Et on perd justement cette notion du temps long dans lequel s'inscrit la transmission. Et c'est aussi pour cela qu'on a baptisé notre maison d'édition longtemps, puisqu'on s'inscrit dans la durée, modestement, bien sûr. Enfin, si je pouvais avoir la même longévité que l'atelier du roman, évidemment, je ne demande que ça. Mais à notre modeste niveau, c'est ce que nous essayons aussi de faire.
Alors, comment vous l'avez pensé, réfléchi, organisé ? Parce que, bon, on parle d'une feuille blanche. Bon, un chemin de fer, faut une ligne, faut, bon, on connaît un peu les affaires, hein, et puis vu le prix du papier, on n'a pas intérêt à se gâcher. Donc, expliquez-nous un peu l'arrière-cuisine.
Alors, il fallait déjà que ce soit le reflet de, du site internet de la revue sans que ce soit un copier-coller. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le site a plusieurs rubriques et je souhaitais justement que ces rubriques soient toutes incluses dans ce numéro-là. Alors ensuite, il faut faire avec les contraintes qui sont les nôtres. Alors, bien sûr, il faut intéresser les gens qui pourraient être éventuellement prêts à donner une contribution, hein, à écrire un article critique de fiction dans le cadre de cette revue. Et donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris mon carnet d'adresses, j'ai sélectionné parmi tous les auteurs que j'avais pu justement interviewer au préalable et avec lesquels je m'étais senti tout à fait à l'aise dans le cadre de cet exercice de l'entretien. Je leur ai demandé tout simplement si ils étaient a priori intéressés d'écrire un article, sous quelque forme que ce soit, sur ce thème de la transmission. Alors, j'ai souhaité justement varier le plus possible les profils. Donc, on a des historiens. On a par exemple Alain Corbin, qu'on connaît pour son histoire du climat. On a Bénédicte Vergès-Chignon, l'historienne de référence de Pétain, par exemple, ou de Daniel Cordier. On a des essayistes. Alors, on a parlé de Maurizio Serra de l'Académie française, qui parraine, on va dire, un petit peu ce numéro. On a des romanciers, Julien Thèves, Akira Mizubayashi, Fabienne Jacques. Voilà, donc tout un éventail, on va dire, de profils qui se sont donc exprimés sur ce thème-là. Je vois aussi, bon, vous êtes en train de le feuilleter, il y a Thomas Desmond aussi, que vous connaissez bien, Radio Courtoisie, Alain Correc.
On a aussi Maximilien Frisch qu'on a reçu, voilà. On a Patrice Jean.
Sarah Bajda aussi.
Voilà, il y a beaucoup de gens et de plumes connues et agréables et qu'on aime bien. Voilà. Mais alors c'est pas.
Il y a aussi Louis Vin, pardon.
Il y a aussi le Louis Bourbon.
Alors oui, Louis Bourbon, tout à fait, mais parce que justement c'est ça me semblait important. Quel meilleur profil que le prétendant au trône de France, mais il n'aimerait pas que je dise ça, c'est ce qu'il effectivement dit dans l'entretien.
Il ne prétend pas, voilà, mais après, on reconnaît cette.
Tout à fait.
Mais affirmation.
Quel meilleur profil, alors on va dire que le duc d'Anjou, parler de la transmission qui est quand même millénaire, hein, c'est l'héritier des rois de France. Alors j'aurais pu éventuellement solliciter le comte de Paris, bon, il s'avère que c'est le duc d'Anjou.
Vous avez pu faire une conversation avec les deux.
Je ne suis pas sûr qu'ils auraient accepté.
Sur la culture.
Oui, mais.
La culture dépasse les clivages.
Écoutez, peut-être pour le prochain numéro alors, mais. ça aurait été un peu plus compliqué.
Et donc, vous n'êtes pas collé à une actualité culturelle, c'est ce que je voulais vous demander.
Alors.
En fait, vous avez choisi un thème, là, c'est la transmission. Oui. Et en fonction des sujets, des auteurs, des angles, des arts, vous traitez de la transmission.
Oui, mais il y a malgré tout aussi des livres qui sont sortis très récemment. Je pense à Géographie de l'oubli de Raphaël Sigal, par exemple, qui est un très beau livre, très intime, sur justement la transmission de la mémoire de la Shoah par le biais de sa grand-mère. Et sous le prisme du silence. Et j'ai trouvé ça très original, puisque c'est une personne qui a refusé toute sa vie de parler de cette expérience-là, et qui, à la fin de sa vie, donc, est frappée de la maladie d'Alzheimer. Et donc, alors, on évoquait tout à l'heure l'EHPAD, justement, elle se retrouve dans une maison de retraite, un établissement, donc EHPAD, et pour entretenir sa mémoire, on lui demande d'écrire, justement, sa vie, de mettre par écrit, tout coucher par écrit sa vie. Et là, elle écrit, justement, pour la toute première fois, cette expérience de la Shoah. Et son petit-fils, donc Raphaël Sigal, reprend cela dans son livre qui est vraiment très, très émouvant. Donc, ce livre est effectivement sorti il y a quelques mois, et quand j'ai vu, quand j'ai consulté l'actualité littéraire, je me suis dit, tiens, ça pourrait tout à fait coller au thème de la revue. D'autant plus que c'est un bon livre. Donc voilà, raison de plus.
Alors, on a eu un petit message d'un auditeur. Je crois qu'il n'a pas aimé que vous n'aimiez pas la mélodie du bonheur.
Ah, mais oui, mais ça, je...
Donc, qui demande de vous rappeler que ce film est inspiré de l'histoire véridique de la famille du baron Von Trapp, qui fut extrêmement tumultueuse, et pas seulement en Autriche, mais aussi aux États-Unis, où leur tournée était de véritables exploits. Peut-être que le vrai est mieux que l'inventé.
Mais vous voyez que c'est clivant. C'est un film que tout le monde adore.
Moins que Sissi Impératrice.
Après ça, je vous laisse la responsabilité de vos propos.
Beaucoup plus clivant. Ah, je vous promets que si.
D'accord.
Ça a tué des familles. Bon, alors, à rebours, on a compris.
Oui.
À rebours de l'époque, en tout cas de l'instantané, de édition longtemps, parce que vous projetez sur du long terme.
Tout à fait.
Question pratique, comment on se le procure ?
Alors, par deux moyens. Déjà sur le site de la revue, donc arebourg-revue.fr, vous avez un petit onglet boutique et vous pouvez l'acheter par ce biais-là.
Sur votre site.
Voilà, sur le site. Ou sinon en librairie. Alors, pour l'instant, nous avons des moyens assez modestes. Hein, donc, pour l'instant, nous sommes présents surtout à Paris, dans quelques librairies. Par exemple, l'Écume des Pages, Compagnie, Le Dilettante, Volontaire, les Cahiers de Colette. Nous sommes aussi présents en Bretagne, à Morlaix notamment, parce que notre association est basée à Morlaix. Voilà, c'est notre siège est à Morlaix, un de mes associés est de là-bas, et donc qui est d'ailleurs un ancien bouquiniste. Tout vient finalement aussi d'une histoire d'amitié, parce que ce bouquiniste dont j'étais client, j'ai acheté mes premiers livres chez lui, il était sur les quais de Seine, donc à Pont-Neuf, j'ai acheté mes premiers livres chez lui il y a plus de 15 ans, et donc je le fréquente depuis toutes ces années, et ben, au fil du temps, une amitié est née, et on s'est dit un jour, ben, pourquoi pas faire un... mettre en œuvre un projet comme ça littéraire. Alors c'est passé d'abord par l'idée d'un livre et ensuite tout simplement, très logiquement, ça a dérivé vers la revue. Et on a fondé cette association, les éditions Longtemps, on a aussi un imprimeur. Alors je tiens quand même à souligner que cette revue est imprimée en France. Hein. C'est pas une revue imprimée en Roumanie ou en Bulgarie, c'est en France. Voilà, un produit français.
C'est bien. Vous savez, on dit ça au début, puis quand il faut durer,
on traverse les frontières.
On va durer.
Alors, vous écrivez dans votre édito que tout cela est fragile, vulnérable, menacé par la modernité triomphante, oui. Le tout visuel, l'instantané.
Tout à fait.
Donc pour vous, c'est vraiment le cœur du problème, là. C'est que c'est plus qu'il y a, il y a un problème de transmission, mais le problème de transmission est dû à cette espèce d'enfant roi qui veut du tout de suite en ramasser, qui fait plus l'effort d'aller chercher, qui fait plus l'effort de la curiosité. On n'a pas un problème d'offre culturelle, on a un problème de consommation de culture.
De consommation, mais peut-être aussi également d'offres, parce qu'il faut voir ce que... On ne va pas mettre tout sur le dos des jeunes générations. J'en parlais tout à l'heure avec cette coupure entre générations. Les jeunes, il faut aussi, pour qu'ils puissent se lancer, leur donner des outils pour pouvoir s'approprier cette culture. Si on les laisse seuls dans la nature, effectivement, qu'est-ce qu'ils ont à portée de main? Ils ont leur smartphone, ils ont TikTok, YouTube. Et donc, ils se construisent leur propre culture à partir de ce qu'ils peuvent voir dans les vidéos d'influenceurs, ou alors ils voient des... Ou si on va encore dans le plus glauque, les sites pornographiques, etc. Donc c'est malheureusement, si on les laisse seuls et non accompagnés dans ce processus d'acquisition d'une culture, malheureusement ça peut aboutir à des résultats qu'on ne peut que déplorer. Et alors... Effectivement, problème de consommation, mais c'est en amont le problème aussi de l'offre. C'est savoir ce qu'on veut transmettre à nos enfants, ce qu'on veut transmettre aux jeunes générations. Et si on ne leur propose que des... je ne sais même plus comment s'appellent ces influenceurs, l'ENA Situation ou d'autres... Voilà, bref.
Elle écrit des livres.
Si on ne leur propose que ce genre de médium culturel, mais je n'ose même pas dire culturel, ou alors avec de gros guillemets, malheureusement, on ne peut pas aller bien loin. Donc, après, effectivement, comment intéresser les jeunes générations à la littérature, à la, on va dire, culture classique, ça, c'est un autre débat.
On va en parler.
Mais oui, alors, je vous laisse.
On va en parler, mais vous savez, il est 19h, et donc, chers auditeurs, vous savez que Radio Courtoisie, qui parle beaucoup de culture, qui essaie de garder cette belle idée et cette l'indispensabilité de la transmission, la radio Courtoisie ne vit pas malheureusement d'amour et d'eau fraîche, surtout moi qui coûte très très cher à Pierre-Alexandre Bouclet. Et donc si vous voulez que la radio continue à exister, il suffit de faire un don et d'écouter ce petit message.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission Débat de Radio Courtoisie. Nous sommes avec Guillaume Narguet, donc journaliste, critique littéraire, critique cinéma, et qui est donc publie sa revue, le premier numéro de sa revue à rebours, une revue qui existait, vous la connaissiez peut-être déjà sur les internets, mais là c'est la version papier et le premier numéro est sorti. il y a quelques jours, quelques mois, quelques semaines, pardon, au mois de février, ça sera donc un semestriel. Mais vous savez également, à 19h, c'est l'heure de la chronique de Romaric Sangars. Alors, cher Romaric, en début de printemps, vous vouliez nous offrir un petit bilan de l'hiver.
Oui, cher Arthur, il y a en France deux grandes saisons littéraires, mais elles se distinguent de celles de la mode vestimentaire, car les éditeurs, contrairement aux tailleurs, ne proposent que deux collections, celle d'automne et celle d'hiver, comme si la littérature était une pratique de ciel gris et qu'on abandonnait l'été au roman noir ou à l'eau de rose, le sérieux des lettres ne supportant pas les soleils trop francs. Alors que nous venons de franchir l'équinoxe et que nous attendons, après la revanche sur la nuit de la lumière physique et la résurrection de celui qui est la vie et la lumière divine, il est aussi possible, dans cet intermédiaire, de récapituler les lueurs que la rentrée de janvier nous aura offertes. J'admets toutefois que cette phrase était un peu trop longue. Bref, si la rentrée de septembre s'était illustrée par une espèce de grand concours d'endeuillés, chaque écrivain mise en lumière d'Emmanuel Carrère à Émilie Nothomb, en passant par Paul Gastnier évoquant la mort de sa mère, sujet universel et pathétique s'il en est, mais pas franchement original, la rentrée de janvier donna moins dans le funéraire et l'évident. Plus variée, plus audacieuse, sans monopole, elle nous permit de découvrir quelques belles expériences avec de vraies tentatives formelles et moins d'autofiction pleurnicharde.
Comme par exemple, j'imagine, les auteurs que vous avez mis en valeur dans l'incorrect, Bruno Marsan ou Éric Reinhardt.
Absolument, cher Arthur, Bruno Marsan, avec Underdog, a mordu les mollets de cette vieille radoteuse de centre-gauche qui était devenue la littérature française, entremêlant le récit de son héros et la biographie de Sylvester Stallone pour produire au passage un portrait décapant du dernier demi-siècle des deux côtés de l'Atlantique. Dans un genre plus précieux, mais non moins excitant, Éric Reinhardt, avec L'Imparfait, a su sublimer l'exercice de la nuit au musée en inventant sous les yeux du lecteur un récit d'hermaphrodite depuis la galerie Borgèse, digne des meilleures nouvelles symbolistes du 19e siècle. Mais on a pu aussi assister aux méditation fascinante et alerte de Jean Rouault sur toute l'histoire humaine, la Bible et ses propres livres dans la maison imaginaire qu'il nous a livré comme un vertigineux testament métanarratif. Enfin, on a découvert que les femmes DJ peuvent s'affirmer comme des plumes de première catégorie avec Cécile Delacoudre et Anne F. Garetta, la première signant la Baptiste au dilettante et la seconde DJ, portrait de l'artiste en animal nocturne au Mercure de France. Enfin, des thèmes singuliers ou ambitieux, enfin des formes inédites et percutantes, et puis autre chose que le catéchisme antifa et le dépôt de plainte qui ont stérilisé depuis 10 ans la production nationale.
Mais dans tout ça, avez-vous pu remarquer également des nouveaux venus de qualité ?
Alors oui, on s'est d'abord intéressé à Victor Malzac, vendu comme le jeune prodige de l'hiver 26 par de nombreux médias, avec son roman Le Monstre Mur, publié au Corps Conducteur, mais le courant n'est pas passé dans nos circuits à nous et on a plutôt conclu à l'arnaque et au mimétisme journalistique. En revanche, Clara Buisson nous a fait démarrer avec Embraye Louise chez L'Arpenteur, un premier roman d'un charme fou, aussi brillant que singulier. En effet, la trentenaire bordelaise nous expose les débuts dans la vie adulte de Louise, une jeune femme de 20 ans qui vient d'obtenir son permis de conduire, lequel symbolise bien, au-delà du véhicule physique, le permis de conduire enfin sa propre vie, de découvrir le monde en quittant son petit village natal, bref, d'entreprendre le chemin initiatique où fraye tout humain au moment de s'émanciper de ses parents pour s'inscrire dans le monde et y trouver sa propre place. Ce qui demeure aussi, depuis Perceval le Gallois, l'un des sujets les plus excitants de la littérature, la première et la plus fondamentale de toutes les aventures, comment advenir à soi et au monde. Mais ce vieux sujet, évidemment, Clara Buisson le reprend dans le contexte de sa génération et avec ses moyens à elle. Pas de quête grandiose ou d'arrivisme mondain dans Embraye Louise, mais une approche progressive, comme par cercles excentriques, de nouvelles réalités. La route, les vacances, les boulots d'été, les sorties, les escapades, la fac, le collage de rue, les manifs, mais aussi les rêves nocturnes, les doutes, les dragues subies ou non osées, des considérations dans le tram. C'est sensible, juste, envoûtant. Le texte bénéficie de belles trouvailles formelles avec suspens de la ponctuation, transcription des échos ou parasitage par le fond sonore, mais surtout une ultra-subjectivité féconde. Montrant Louise qui se cherche, Clara Buisson se trouve une voix singulière avec une touche impressionniste et un style agrémenté d'effets originaux.
Mais si cette rentrée d'hiver révèle de nouveaux talents, qu'est-ce que ces nouveaux talents, et Clara Buisson en particulier, révèlent donc de leur génération ?
C'est la première réflexion qui nous vient, en effet, cher Arthur, après avoir fermé Embraye Louise, le roman de Clara Buisson, que de vouloir lui trouver un écho générationnel, même si cela tient évidemment de la généralisation abusive, mais enfin, toute œuvre de ce genre possède, quoi qu'il en soit, une dimension symptomatique, d'autant plus symptomatique qu'elle est singulière et maîtrisée, et pas un simple pastiche de succès antérieurs. Alors certains critiques ont insisté sur ce qui peut paraître de plus flagrant, une conscience politique aiguë, et il est vrai que les événements initiatiques déterminants que vit Louise, manifestation ou collage, relèvent de cet ordre, mais le roman est plus descriptif que militant. Il n'est grévé d'aucune pesanteur idéologique et ces événements n'ont pas un impact si décisif sur l'héroïne, laquelle ne vit pas d'initiation flagrante d'ailleurs, mais progresse dans une errance assez nébuleuse. Et c'est finalement cette nébulosité, cette absence de voix, cette errance prolongée qui dépeignent un climat d'époque. On a relevé aussi une ambiguïté sexuelle qui serait typique de cette génération, Louise semblant attirée par des comme par des garçons. Encore une fois, comme le trait n'est pas appuyé, il me semble fallacieux d'embrigader le roman dans une illustration quelconque des théories à la mode, simplement celles-ci circulent parce qu'elles nourrissent les slogans du moment. Ce qui est très frappant, en revanche, ce n'est pas l'ambiguïté, mais l'absence de sexualité dans un roman de ce type. Le désir, depuis Chrétien de Troyes jusqu'à Flaubert, depuis Madame de Lafayette jusqu'à Stendhal, Radiguet, Colette ou Aragon, est censément le moteur principal de l'avènement au monde. Il suscite l'aventure par excellence, la confrontation à l'altérité, le trouble, la perte de soi, la mue décisive. Or, dans le roman de Clara Bousson, le désir demeure aussi à un stade nébuleux, liminaire, indistinct. Ce qui est étonnant, ce n'est pas tant ce mariage entre copines qui se déroule durant une soirée que la cérémonie se limite en fait à des échanges de bracelets comme dans une cour de récréation d'école primaire et sans que personne n'ait même l'idée de se toucher. Ce que traduit peut-être le roman du malaise d'une génération, c'est le flou général dans lequel elle se trouve et surtout la diminution critique du désir. Il serait donc temps d'accélérer le retour du printemps.
Merci Romain Rixangars. Guillaume Narguet, vous êtes d'accord, la diminution du désir, vous l'observez également dans cette nouvelle génération?
Oui, alors on peut observer beaucoup de choses avec cette nouvelle génération. Je pense que, en plus avec l'avènement de l'intelligence artificielle, nous sommes dans une sorte de superficialité ou d'inauthenticité, si je cherche des mots un peu savants, d'inauthenticité des relations et donc des sentiments. Et je pense qu'effectivement, ce qui pouvait constituer auparavant des sentiments oui, authentiques, purs et vrais, n'aboutissent maintenant qu'à des succès d'années où on évolue dans une société du superficiel et du fake, pour reprendre un terme à la mode, mais enfin du faux, hein, pour être plus français. Et oui, je suis tout à fait en accord avec cette...
C'est embêtant, parce que sans désir, la création va prendre un sacré coup.
Ah bah ça, bien sûr, mais après, il reste des poches de résistance, je pense.
Alors
justement,
quand vous parliez d'IA, c'est intéressant, ça me fait penser à... donc vous savez, Michel Houellebecq est très fasciné par ces questions et très angoissant en même temps de machines et d'IA, l'essaye de temps en temps, régulièrement, et puis depuis quelques temps, et là, il a révélé qu'il n'était plus certain de faire la distinction entre une IA et un écrivain, sur un résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous angoisse? Est-ce que vous pensez que l'écrivain serait remplacé par la machine?
Je pense que c'est déjà révélateur de ce que pense Michel Houellebecq des écrivains. Il a une piètre opinion des écrivains, parce que le style, si on peut dire cela comme ça, de l'IA, ce n'est pas un style, justement, c'est un anti-style. C'est quelque chose de fade, de vide, vide de sens, vide d'authenticité, j'en parlais. Donc, ou alors il prend comme exemple des auteurs... allez, je vais être méchant, Annie Ernaux ou ce genre de personnalité. Effectivement, là, on pourrait avoir du mal. Allez, du mal à faire la distinction entre l'IA et le style d'Annie Ernaux.
Ah, mais l'IA est plus imaginative.
Peut-être dans ce cas-là, oui. Mais non, alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Oui, évidemment qu'il faut s'en inquiéter. L'IA est prometteuse dans un certain nombre de disciplines, notamment la médecine. C'est très prometteur en médecine, l'intelligence artificielle. Mais effectivement, on voit, alors on parlait des jeunes générations tout à l'heure, on voit que les plus jeunes, et dès le collège, le lycée, ont recours à ChatGPT ou à d'autres outils d'intelligence artificielle pour justement rédiger leurs devoirs. Alors au début, leurs professeurs, les instituteurs reconnaissent la patte de l'intelligence artificielle. Effectivement, là c'est l'intelligence artificielle parce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Donc ça se voit. Mais au fil du temps, et plus on avance en âge et dans les études, plus la distinction effectivement sera difficile à faire. Donc c'est un problème, parce que l'intelligence artificielle devient une sorte de mode de prêt-à-penser. On se dispense de penser, on se dispense de réfléchir et d'analyser parce que la machine le fait pour nous. Alors c'est très commode, mais malheureusement ça ne mène pas bien loin et on aboutira à une sorte de société à la Aldous Huxley dans Le Meilleur des Mondes ou je ne sais quelle dystopie où des les gens ne pourront plus penser par eux-mêmes et seront donc par définition manipulables à souhait. Et on le voit bien aussi dans le milieu professionnel où de très nombreux postes, on va dire non manuels, intellectuels, même manuels aussi d'ailleurs, l'intelligence artificielle peut menacer les postes manuels, mais de très nombreux postes intellectuels sont menacés directement par cet outil informatique. Par exemple, pour dire, allez, vous avez parlé de politique tout à l'heure, si on prend un candidat, n'importe lequel, qui doit rédiger un discours, jusqu'à présent, il demandait à son assistant de rédiger ce discours, de mettre éventuellement des petites figures de style, etc., pour que ce soit un peu plus vivant, plus humain. Maintenant, il demande à l'IA. C'est très rapide, c'est très simple.
Autant faire un débat d'IA, ça ira plus vite.
Voilà, mais autant y lire des IA, enfin, je veux dire, c'est...
Tant qu'on y est, pourquoi pas. Ça serait peut-être moins dommageable.
Je sais pas.
Vous parlez de distinction, de hiérarchie, justement, c'est là où c'est intéressant, parce que c'est le rôle d'un critique. Et donc vous êtes critique littéraire. C'est quoi un bon critique littéraire ?
Bon, alors déjà, un bon critique littéraire, la base, c'est que c'est un critique qui lit le livre qu'il doit critiquer. Et c'est
vous
justement.
Vous n'avez pas envie de vous faire influencer non plus. Dans la célèbre formule.
Voilà, tout à fait. Et c'est un travers qu'on voit trop souvent dans la grande presse. C'est que. Alors, je parle de livres, mais ça peut être aussi des films.
Peut-être que vous m'expliquerez s'il y a une différence entre justement un critique de cinéma et un critique de littérature, quoi, de roman ou de littérature.
Oui, bien sûr, mais finalement la base reste la même. Alors j'allais enchaîner sur un film justement de Pascal Bonitzer. Malheureusement, j'ai oublié le titre avec Fabrice Lucchini où il joue justement le rôle d'un critique de cinéma qui doit rédiger une critique sur un film serbe qu'il n'a pas vu. Donc il rédige cet article-là et qui tombe complètement à côté. Alors, je ne sais pas si vous avez le titre de ce film. Malheureusement, il m'échappe. Et toute la presse lui tombe dessus, à plus forte raison qu'il n'a pas vu le film. Donc, non, je pense que les logiques restent les mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, pour être critique littéraire, il faut lire le livre. C'est la base. Pour être critique cinéma, il faut voir le film. Et si on est très consciencieux, on essaye de s'intéresser à... peut-être pas l'ensemble de l'œuvre, mais en tout cas de nombreuses œuvres de l'auteur qu'on est censé chroniquer, je n'aime pas ce terme, mais en tout cas analyser. Non, je pense que la logique reste similaire quand même dans ces deux formes d'art. Ensuite, un critique littéraire doit savoir aussi faire passer son message et se faire comprendre surtout. Et c'est la critique qui est trop absconse n'est pas une bonne critique à mon sens. Alors ça ne veut pas dire que on doit avoir recours à un langage infantile, bien sûr. Mais ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et donc le critique doit être là pour justement transmettre un message clair et compréhensible par les spectateurs, et donc donner envie à ces spectateurs ou aux lecteurs de lire ou de voir telle ou telle œuvre.
Ou de fuir.
Ou de fuir aussi, bien sûr.
Ça marche. Oui, Romaric Sangars.
Oui, à la rencontre du cinéma et de la littérature, et en plein dans le mythe, il y a un écrivain que j'adore particulièrement et que vous avez interviewé à plusieurs reprises, notamment dans Zone Critique, je me rappelle l'entretien de lui, c'est Jean-Jacques Schoul.
Ah oui.
Qui, alors je ne sais pas si les auditeurs ont encore en tête Jean-Jacques Schoul, qui a été le prix Goncourt 2000, oui. Qui est un écrivain qui a écrit 5-6 livres assez courts, d'ailleurs en reprenant souvent les mêmes idées et les mêmes thèmes, qui a connu notamment Jean Eustache et qui a inspiré un personnage célèbre de La Maman et la Putain, qui est revenu, d'ailleurs il y a beaucoup d'échos de cinéma dans ses livres. Et donc, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de Jean-Jacques Schoul? Quel est donc ce livre que vous préparez à son sujet? Que fait-il? Va-t-il encore nous livrer quelques œuvres, sachant qu'il est extrêmement économe de son génie?
Oui.
Et où en est le mythe? Parce que néanmoins, on voit Lolita Pie a sorti un essai assez intéressant, je trouve, sur la littérature il y a quelques mois, où elle parler aussi de Jean-Jacques Schoul, on voit bien qu'il est, il continue tout de même, même si c'est pas un auteur grand public, de rester en filigrane de la scène littéraire actuelle.
C'est un personnage assez mystérieux, Jean-Jacques Schoul. Effectivement, il s'est fait connaître dans fin des années 70 avec cette ovni littéraire qui s'appelle Rose Poussière, un livre qu'on ne pourrait pas vraiment... dont on ne pourrait pas qualifier le genre. C'est une sorte de pot-pourri, de réflexion sur le cinéma, sur la littérature, sur un peu tout, qui était très à la mode donc dans ces années-là. Les jeunes dans le vent sortaient tous avec un livre, enfin le livre Rose Poussière dans la poche pour se faire bien voir et être un peu snob. Donc il a construit un véritable mythe, oui, au sens bartésien du terme, dans ces années 70. Ensuite, il a disparu pendant une vingtaine d'années. Il est réapparu en 2000 avec Ingrid Cavan, donc, qui est sa compagne à la ville. Et il a écrit donc ce livre intitulé Ingrid Cavan, qui est une sorte de vie fictive, finalement, d'Ingrid Cavan depuis son enfance. Donc, elle est née en 1938, je crois. Donc, évidemment, elle a connu les derniers temps du nazisme et elle a chanté toute petite pour devant un public de SS. Enfin, ça, il le dit très bien au tout début d'Ingrid Cavan. Et ensuite, elle a eu la carrière qu'on connaît, donc l'actrice de Fassbinder, etc. Ce qui m'avait... alors, c'est ce parcours déjà qui m'avait un petit peu intrigué chez Jean-Jacques Schoul, mais surtout, comment je l'ai connu, c'est parce que dans le cadre du numéro papier de Zone Critique qui était consacré à la fête, j'avais choisi de le solliciter pour une interview, parce que effectivement, la fête est quelque chose qui traverse toute son œuvre. Il parle notamment de ce fameux bal auquel était invité Andy Warhol, Yves Saint Laurent, etc. Dans les années 80, il écrit vraiment de merveilleuses pages à ce sujet-là, dans Ingrid Cavan. Et donc je l'avais sollicité et j'ai négocié cet entretien pendant, allez, on va dire, un an et demi.
Ah oui,
c'est quelqu'un que... Alors, bon, j'avais eu son adresse, je lui avais écrit une longue lettre manuscrite que j'avais envoyée directement à son domicile. Il m'a répondu quelques temps après en m'appelant directement. Alors, c'est quelqu'un qui vous dit pas forcément les choses, il passe toujours, et ça on le voit aussi dans son œuvre,
dans son écrit, il est pareil. Alors,
voilà, par différents couloirs comme ça pour aller, il va pas droit au but, c'est toujours très très sinueux. Et alors il me dit oui, j'ai beaucoup apprécié votre lettre. Écoutez, on peut faire quelque chose. Je vous rappelle la semaine prochaine. Alors il me rappelle la semaine prochaine. Il dit bon, j'ai bien réfléchi. Écoutez, on va le faire. Je vous rappelle dans un mois. Alors un mois plus tard, il me rappelle. Bon, écoutez, on va le faire, mais rappelez-moi plus tôt. Alors après, c'était dans 6 mois, etc. Ça duré comme ça pendant un an et demi, et finalement il m'a invité chez lui, et on a pu faire cet entretien sur la fête, et au fil du temps, comme on s'est très bien entendu, et il a vu que justement, en tant que bon critique littéraire, je connaissais son œuvre, il s'est dit bah, pourquoi pas avoir des entretiens un peu plus poussés sur des sujets divers et variés, tels que effectivement le cinéma, tels que la mode, tels que le sport. Ce sont des sujets auxquels on ne pense pas forcément quand on parle de Jean-Jacques Schoul. Et en tout cas, il s'est révélé très, très prolixe, pour le coup. Et on a, pendant un peu plus d'un an, eu de longs entretiens comme ça chez lui. Alors, c'est très drôle parce que il habite donc dans le 7e arrondissement et sa fenêtre donne sur l'ambassade de Russie qui est maintenant, je ne sais plus à quoi ça sert, mais enfin, c'est complètement déserté avec un parc. Et il en parle beaucoup dans ses livres. Et donc, par une sorte de mise en abîme comme ça, je me retrouvais dans un livre de Jean-Jacques Schoul. Je parlais avec l'auteur devant cette ambassade de Russie qu'il décrit en long, en large et en travers dans pratiquement tous ses livres. Et c'est une expérience assez incroyable et émouvante. Oui. Et donc, pour l'instant, alors oui, effectivement, il est de temps en temps sollicité. Alors, je sais qu'il était sollicité l'année dernière par des journalistes russes. Alors, il m'a demandé s'il pouvait utiliser les bouts d'entretien qu'on avait fait ensemble pour nourrir ce livre que des journalistes russes voulaient écrire sur son œuvre. Donc, bon, je lui ai donné mon accord, bien sûr. Et l'année dernière, il était sur la rédaction d'un prochain roman, mais je n'en sais pas plus pour l'instant.
Alors, il sort un livre tous les 5 ans maintenant.
Oui, bon,
tous les 30 ans,
c'est vrai qu'il
au début,
a un certain âge.
Et, oui, donc, et puis voilà. Il est assez âgé, mmh. Oui, il a quel âge aujourd'hui?
Il a 90 ans. Il est de 41, donc il a 85 ans cette année, voilà.
Oui, parce qu'il dit, il dit dans lequel c'est livre, il le dit plusieurs fois d'ailleurs, avec Jean Eustache, il disait que dans les années 60, quand il traînait au quartier latin, il s'était promis de ne rien faire. Et que Jean Eustache avait tenu moins longtemps que lui. Mais Jean Eustache a fait la maman et la putain, et lui, 30 ans plus tard, il a le Goncourt avec Henri Cavan. Ouais.
Il y a beaucoup d'humour, c'est quelqu'un vraiment de... Voilà.
Heureusement qu'il n'a... Voilà. Il est complètement merveilleux, et le mythe donc continue encore aujourd'hui,
oui,
il y a encore des gens qui viennent le visiter régulièrement.
Oui, bien sûr, Jim Jarmusch par exemple, quand il vient à Paris, il vient le rendre visite, et j'ai fait une soirée de lancement pour la revue à rebours en février à l'hôtel Swan, que je salue, que je remercie, parce qu'ils ont mis la salle de réception à notre disposition, l'hôtel Swan dans le 8e arrondissement, rue de Constantinople, et quelques minutes avant, il m'appelle, parce que je l'avais invité à venir à la soirée, il m'appelle, et il me dit quelque chose de tout à fait chulien. Alors il me dit, bon, bien sûr, je ne pourrais pas venir parce qu'il a du mal aussi à se déplacer. Hein. Et il me dit, est-ce que vous pourriez mettre votre téléphone en haut-parleur? Je voudrais écouter en direct ce qui se dit à cette occasion-là. J'ai dit, bon, ça risque d'être un petit peu compliqué, vous n'entendrez pas grand-chose, mais si vous voulez, j'enregistre la discussion et puis je vous l'enverrai. Voilà, mais on est tout à fait dans le personnage, là. Voilà,
vous auriez pu faire une visio, un zoom, comme on dit.
Oui, un zoom, oui, ça aurait pu.
Dernière question, plus complexe peut-être, mais pour faire un lien avec la première partie de notre émission qui était très politique. On observait, notre invité observait une polarisation de la société française. Est-ce que vous observez cette polarisation dans le monde culturel ou dans la manière dont les Français consomment la culture?
Dans le monde culturel, déjà, je dirais qu'il y a une crispation du monde culturel plus qu'une polarisation. La polarisation, on la connaît, on sait que le monde culturel, bon, est bien sûr très orienté, très marqué à un certain endroit de l'échiquier politique, donc plus à gauche, bien sûr. Je pense qu'ils sont en train de perdre la bataille des idées. Malheureusement pour eux, ils voient cette hégémonie qu'ils avaient, qui était incontesté, indisputé, jusque encore dans les années, on va dire, de 2000. Ils voient cette hégémonie leur échapper des mains. Et on le voit notamment, alors je vais prendre un exemple très parlant, ce sont les éditions Fayard. Voilà. Les éditions Fayard étaient spécialisées jusque dans les années 2000-2010, surtout en histoire. Ils se sont un petit peu, ils ont varié leur centre d'intérêt, ils ont ouvert leur porte à des auteurs comme Éric Zemmour, enfin, d'autres auteurs qui peuvent être vus comme clivants ou en tout cas très marqués, très orientés politiquement. C'est une maison d'édition maintenant qui est dans le monde culturel considérée comme sulfureuse parce qu'elle a ouvert ses portes à des auteurs comme cela. Et on voit, justement, je parlais de la fin de cette hégémonie culturelle, quand on voit que des maisons d'édition aussi importantes, et avec une telle histoire, hein, comme les éditions Fayard, ouvrir leurs portes à cette littérature-là, ces opinions-là, on peut se dire que, ben, justement, il y a une brèche, il y a une fissure qui s'est faite, et que les choses bougent, effectivement. Oui. Et je pense que, donc, on est plus à une crispation qu'à cette polarisation. Et on va voir comment ça va évoluer. Je pense que on aboutira plus tant dans le domaine culturel que dans le domaine politique, on aboutira à quelque chose d'assez violent.
Eh bien, chers auditeurs, donc nous vous conseillons, nous vous recommandons de vous procurer donc la nouvelle revue culturelle qui s'appelle À rebours, dont le premier thème de ce numéro est la transmission. Donc vous retrouvez toute la culture, à savoir le cinéma, la littérature, la bande dessinée, tous les arts, avec différentes personnalités, d'autres, certains que vous connaissez déjà, on en a cité quelques-uns, je vais les reciter. Alors évidemment Mauricio Serra qui parraine un peu ce premier numéro, Emmanuel Godot qu'on avait reçu ici, Patrick Jean qu'on avait reçu ici, Maximilien Frisch qu'on avait reçu ici, vous qu'on reçoit, on reçoit tout le monde, c'est très bien, c'est une quelle merveilleuse émission. Bref, donc vous pouvez le trouver sur le site de arebours-revue.fr. Et si sinon vous tapez sur la barre de recherche, vous trouverez. Et dans quelques librairies, j'ai noté donc à Morlaix, Voilà, il y a une préférence des Bretons. Et à Paris. Merci beaucoup, Guillaume Narguet. Et puis, en espérant une longue vie pour cette revue éditée au tout longtemps. Donc, ce serait... Voilà, c'est raccord, cohérent.
C'est le but.
Et chers auditeurs, nous, on se retrouve mercredi prochain. Bonne soirée.
Ça suffit maintenant.